Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Bien, je disais tout à l'heure, nous allons aborder dans cette deuxième partie de l'émission un thème qui va certainement vous intéresser, que faire pour promouvoir le leadership féminin. Il existe encore plusieurs obstacles au leadership féminin, beaucoup reste à faire en ce qui concerne l'accession des femmes au poste de direction et de gouvernance. Parmi les obstacles à cette émergence, on cite les préjugés, l'ignorance, le poids de la coutume et bien d'autres obstacles. Alors que faire aujourd'hui pour promouvoir l'émergence des femmes leaders? C'est le thème que nous allons aborder dans cette émission. Merci à ceux-là qui nous appellent déjà pour participer au 081-890-63-94. Faites-nous parvenir vos SMS au 081-711-50-01. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Nous avons déjà dans ce studio Madame Espérance Baïdila, elle est professeure d'université. Bonjour, professeur.
Bonjour, Jean-Luc Assama.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons aujourd'hui de la promotion d'une leadership féminine. D'abord, professeur, dites-nous quels sont les obstacles qui font qu'aujourd'hui la femme n'arrive pas à émerger comme il faut et à occuper des postes de gouvernance, des directions.
Merci pour cette question. Je dirais d'emblée que ce qui fait obstacle aux femmes d'occuper des postes de responsabilité sont pour moi d'abord liés à l'accès des femmes à l'instruction de qualité et l'instruction au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur. Mais il y a également cette histoire d'autonomie économique des femmes qui constitue un obstacle. Les femmes dans notre pays, si vous voulez en Afrique et peut-être encore dans le monde, sont très dépendantes des hommes. Elles n'ont pas une autonomie économique dont je vois aussi la matière, l'argent. Il y a également des structures. Il y a un blocage au niveau des structures qui reproduisent en fait le statut inférieur de la femme, comme la famille, l'école, l'église, qui encore aujourd'hui sont des structures de la reproduction du statut de la femme, comme je l'ai dit dans le livre que j'ai publié cette année même, sorti au mois de mars.
Et c'est quoi le titre?
Le titre du livre, c'est « La reproduction du statut de la femme en République démocratique du Congo ».
Alors d'abord, en quoi la famille, commençons par la famille, en quoi la famille reproduit ce statut inférieur de la
Mais
femme?
La famille, c'est la base même de la société. C'est là où quand les enfants naissent, ils trouvent en fait les choses déjà rangées, où les gens se complaisent dans leur statut traditionnel. Par exemple, le statut de père qui, avec tout ce que cela renferme comme qualité, le père il est autoritaire, le père c'est lui qui prend des décisions dans la famille, c'est lui qui est un homme public, qui doit travailler en dehors de la famille, et la mère c'est cette personne construite comme personne douce, qui doit rester à la maison pour éduquer les enfants, du ménage, des habits, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui reste, on n'a pas besoin de parler, et c'est que les enfants voient suffisent pour reproduire, en fait. C'est une reproduction du statut. Quand les enfants grandissent également, eux se comportent de la même manière. Ils attendent d'être mariés, ils pensent à un homme qui doit les prendre en charge. Là, je parle des filles. Et les garçons, en fait, veulent se comporter également avec toute l'autorité qu'ils ont vue à partir de leur maison, par l'éducation qu'ils ont reçue, qui est en fait une éducation très sexiste des rôles.
Il y a des stéréotypes, comme on l'a dit.
Absolument. C'est une éducation qui est basée essentiellement sur les stéréotypes. J'ai parlé de l'Église aussi.
Au niveau de l'Église, qu'est-ce qui se passe?
Mais l'Église est une institution très sexiste également. En fait, on veut ranger les femmes. Vous savez, par exemple, que dans certaines églises, on dit que la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas parler devant les hommes, elle ne peut même pas prier devant les hommes.
Pourquoi? rassembler. Et pourquoi?
Parce que justement, c'est encore les stéréotypes qui circulent, où on veut que la femme soit soumise. Et ça, c'est vraiment une expression de l'Église. Femme, soyez soumise. Mais cette parole de la Bible, on ne le dit pas dans son entièreté.
Oui.
Femme, soyez soumise, parce qu'on parle des femmes dans le mariage, pas ailleurs. Alors là, c'est très mal interprété pour moi. On dit femme, soyez soumise. Alors que la phrase de la Bible dit « Femmes, soyez soumises et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est même livré pour elle. » Donc en fait, vous voyez que la part qui est réservée à l'homme est plus dure, plus importante que celle qu'on demande à la femme. Parce que la soumission, c'est aussi aimer, c'est aussi
donc
faire.
Donc elle vient automatiquement quand il y a l'amour.
Exactement.
Hein. Alors professeur, au niveau de l'école, qu'est-ce qui se passe?
L'école, c'est encore une autre institution qui perpétue l'ordre social.
Et pourtant, on a j'ai l'impression que c'est au niveau de l'école qu'on encourage les jeunes filles à aller de l'avant,
non,
à occuper des postes
de
responsabilité.
C'est peut-être maintenant, les choses ont commencé à changer avec le mouvement des femmes, le combat des femmes, mais également des hommes qui comprennent l'importance des femmes d'être éduquées pour le changement, pour le développement de nos sociétés. L'école, par exemple, je crois que vous pouvez vous souvenir des textes du langage utilisé par l'école, où on dit par exemple dans les livres qui demeurent, on dit par exemple « Papa va au travail et maman à la cuisine. » Et ça reste pour les enfants. Mais on voit également, Paul va jouer à la balle pendant que Sandra va laver les assiettes. Donc en fait, ce sont des langages qui sont le langage qui est utilisé dans l'école. Et l'école, vous savez, par exemple, au niveau supérieur, maintenant les choses semblent changer, mais de plus en plus, on voit des femmes qui sont restées dans les filières qui sont féminines. Par exemple, on voit très peu de femmes, si je prends la médecine, qui sont chirurgiens. Par contre, on les voit plus dans la pédiatrie et la gynécologie. Je ne dis pas que c'est mauvais.
Oui.
Mais en fait, ce sont des métiers, des professions, des spécialités qui sont reliées à leur rôle de mère, à leur statut de femme au foyer.
Elles sont limitées, elles ne peuvent pas aller au-delà, parce que la société impose...
Les femmes peuvent. Elles ont des capacités comme les hommes. En réalité, sur le plan de l'intelligence, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de différence dans notre constitution, dans la constitution du cerveau humain, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Au contraire, la femme, au-delà de l'intelligence, au-delà de ce qu'elle peut avoir comme connaissance, elle a le flair, elle a l'instinct qui est très important.
Professeur Badila, prenons votre cas, votre exemple par exemple, vous êtes aujourd'hui la première femme professeure à l'université, à l'Institut facultaire des sciences et l'information et de la communication. Aujourd'hui vous êtes aussi secrétaire
général administratif.
Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous battre pour arriver à cette ascension?
Mais en fait, le grand combat en cette matière, c'est un combat de reconnaissance pour les hommes et pour les femmes. Il faut que les hommes arrivent à reconnaître les femmes, les qualités des femmes et ainsi de suite. Moi, pour mon cas, en fait, je n'ai pas fait un miracle. Non. En fait, je crois que je suivis un cursus normal. J'ai eu un père et une mère qui m'ont forgé à étudier convenablement. J'ai étudié dans des bonnes écoles. J'ai été bien encadrée. Et quand je suis venue, je savais ce que je voulais. Et je me suis mise, en fait, à étudier convenablement. J'ai passé mon temps pour acquérir des connaissances. J'ai beaucoup aimé les lectures qui m'ont également poussé à avoir une culture suffisamment générale des questions importantes du monde, mais en fait, ce n'est pas un miracle. Et puis, je suis retenue quand j'ai commencé les études supérieures comme assistante. J'ai travaillé dans la recherche. J'ai montré que j'étais capable, autant que les étudiants masculins, d'être capable d'exceller. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et je fais bien mon travail. Quand il s'agit de travail, je suis consciente que je dois bien faire mon travail pour l'intérêt de la communauté d'abord, pas pour le mien. Je crois que ce n'est pas de la magie.
Voilà, c'est pas de la magie. Donc aujourd'hui, il est possible de promouvoir les leaderships féminins.
Absolument.
On voit même dans certains pays africains, les femmes commencent à émerger, à occuper les postes des chefs de l'État, et ça change.
Oui, mais encore une fois, comme j'ai dit, ça changera. C'est une question pour moi de reconnaissance. Il faut que les hommes ou la société reconnaissent les qualités des femmes à diriger, à travailler comme des hommes, sinon plus que les hommes. Et c'est ça qui apportera le changement dans notre dans nos sociétés, dans
mais
nos
il y a d'autres pesanteurs, la coutume.
Oui, mais il faut aller au-delà de ces pesanteurs. Oui. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, c'est quand même le troisième millénaire. Nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes pas en 1950. Donc, en fait, ça doit monter avec ce que j'avais dit, qui sont des facteurs de changement. Par exemple, l'accès des filles à l'enseignement secondaire et universitaire. Mmh. Et les filles comprendront davantage. Il ne s'agit pas d'étudier à peu près. Il ne faut pas parler d'une instruction à peu près. Il s'agit pour des filles d'étudier convenablement, d'accéder aux études, de comprendre en fait l'importance des études et de le faire autant que les hommes, sinon plus qu'eux.
Bien, que faire pour promouvoir les leaderships féminins? Nous recevons aujourd'hui Madame Assurance Obaidila, professeure d'université. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne à Saint-Florian qui nous appelle des Kananga. Vous êtes également intéressé à participer à cette émission. N'attendez pas les dernières minutes. Le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94.
Capidan, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidan New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Que faire pour promouvoir le leadership féminin? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Madame Espérance Baïdila, professeure d'université. Nous avons un premier auditeur en ligne, Symphorien Bidoya. Il nous appelle des Kananga. Bonjour Symphorien.
Bonjour Monsieur le journaliste. Bonjour aussi à Monsieur l'invité, Madame l'invité.
On vous écoute, Symphorien.
Bon. Je vais premièrement intervenir puis poser une question. Bon. Aujourd'hui, nous voyons que la case à face de la femme. Comme autorité dans la prise de décision, premièrement, il faut des intelligences et de la mentalité que Dieu lui a donnée. Qui est incriminé parce que nous voyons que dans la plupart des sociétés, on est en train d'incriminer les hommes, que non, les hommes, les femmes ne puissent pas être.
Symphorien, désolé, la communication n'est pas très très bonne. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça peut s'améliorer, parce que là, on vous entend presque plus.
Oui, c'est fait.
Maintenant. Bon, bougez un tout petit peu, mais veuillez vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça va aller. Allez-y.
Je me suis déplacé déjà.
Oui, allez, passez directement à la question concernant Fabien.
Oui, je voulais demander, est-ce que si les femmes, les filles en général aujourd'hui, avaient un nombre constant dans les écoles, parvenaient seulement à étudier, est-ce qu'ils ne pouvaient pas participer dans des décisions ou être des autorités? En même temps, diriger les hommes, c'est la première question.
D'accord. Donc,
la deuxième.
Oui.
La deuxième. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui à ce que, parce que nous sommes en train de voir que les problèmes de la parité concernent tout le monde. Qu'est-ce qui fait à ce que les filles n'aient pas un grand nombre ou un même nombre que les hommes ou que les garçons en sixième année? Parce que moi, personnellement, j'ai présenté cette année le nombre de filles aux exécutifs était. Ce n'était même pas 30%. C'est là.
Ça, d'accord. C'est merci, Symphorien. Et Mary, vous nous appelez de Chimbulu, au Kassai, dans la province du Kassai occidental. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Mary.
Oui, oui. Ma préoccupation est la suivante.
Oui.
Les femmes ici à Chimbulu, voire dans le Kassai occidental, parlent beaucoup. Mais elles sont là pour troubler les foyers. Qu'en dites-vous?
Merci, Emery, professeur Baïdila.
Je voudrais bien remercier tous ceux qui ont posé des questions. Et je commence par la question de monsieur Emery qui vient d'être posée. Les femmes parlent beaucoup, mais elles troublent les foyers des autres. Mais en fait, si je dois répondre à cette question, parler beaucoup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'elles sont de demander un peu plus d'espace dans le monde politique, économique, même en famille.
Oui.
Mais en fait, les femmes troublent les foyers peut-être parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas l'indépendance économique. Donc, si j'essaie de comprendre sa question, elles sont souvent à la recherche de l'argent pour vivre.
Oui.
Or, je dis que j'ai parlé au début que l'indépendance économique va permettre aux femmes, en fait, de se libérer de beaucoup de choses dont parle Monsieur Emery. Mmh. C'est pourquoi une femme, quand elle a un peu de moyens pour mener une activité qui va lui permettre de gagner un peu d'argent, je crois que son comportement sera différent par rapport à celle qui reste à la maison et attendant la main tendue.
Hmm.
Voilà, par rapport
donc,
à
pour promouvoir le leadership féminin, il faut commencer par autonomiser la femme économiquement.
Bon, peut-être pas commencer par là. Ben, j'aurais bien voulu au départ dire c'est quoi le leadership.
Oui,
parce qu'en fait, tout le monde n'est pas leader.
Hmm.
Quand nous parlons d'occupation des postes de responsabilité ou de direction, bon, ce n'est qu'une portion du leadership.
Hmm.
Mais en fait, le leadership n'est pas lié, n'est pas l'apanage des hommes ou des femmes politiques. Elle peut s'exprimer dans tous les domaines de la vie, économique, artistique, enseignement, religion, dans tous les domaines de la vie. Et c'est lié à un certain nombre de qualités que la personne doit avoir. Par exemple, la reconnaissance en tant que personne qui a des idées que les gens peuvent suivre. Il n'est pas nécessairement, cette personne n'est pas nécessairement un manager, quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité.
Mmh.
Mais on peut le reconnaître dans une communauté, dans la société, même en famille, que cette personne est différente. Elle a une vision, elle a des idées, elle fait aligner les gens et les gens peuvent suivre.
Elle arrive à mobiliser facilement,
les personnes.
Oui.
Donc c'est différent d'un manager qui est essentiellement un gestionnaire.
Mmh.
Alors il ne s'agit pas, quand on parle du leadership féminin, de penser que toutes les femmes doivent occuper des postes de responsabilité ou que toutes les femmes doivent être de leaders. Ah non, ça c'est absolument faux.
Mmh.
Donc en fait, il s'agit de reconnaître, encore une fois pour moi, que les femmes, autant que les hommes, sont capables de diriger, de changer les choses, de transformer, de l'idée, de ainsi de suite, parce que les qualités ne sont pas seulement liées aux hommes, elles sont également liées aux femmes, donc à la personne humaine. Et il s'agit de voir, par rapport à ce que nous voulons obtenir, quelle est la personne capable, en fait, de nous donner des bons résultats. Et cette personne peut très bien être un homme ou une femme.
Une femme, oui. Une femme manager peut en même temps être un bon leader.
Absolument, ça dépend.
Ça dépend.
Si elle a ses qualités. Mais telles que les choses peuvent se passer, on peut mettre à la tête d'une organisation quelqu'un qui n'a pas un leadership fort. Donc, en fait, cela également arrive.
Oui.
Mais on peut trouver au sein de la communauté une personne qui n'est pas haut située, mais dont les gens reconnaissent les qualités de leader. Et on le suit. Il n'est pas nécessairement le numéro 1 ou le numéro 2. Voilà un peu. Donc, par rapport à la question de Séphorien, il demande si l'éducation peut vraiment permettre, je crois que c'est comme ça que j'ai compris, aux filles d'accéder aux postes de responsabilité. Mais l'éducation, c'est ça le numéro un. Quand on regarde dans le monde des femmes qui sont considérées comme leaders dans tous les domaines, la première qualité que ces gens-là ont, c'est l'instruction, c'est l'éducation.
Mmh.
Ce sont des personnes qui sont hautement formés, parce que l'éducation, c'est une clé qui nous ouvre les portes du savoir, les portes des relations, les portes, en fait, de la compréhension du monde. Donc, on ne peut pas, c'est vrai qu'on peut être leader, mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui voudrait que les gens aient une connaissance assez pointue des choses de la vie aujourd'hui.
Donc c'est un élément important pour arriver à promouvoir, essentiel
pour promouvoir les femmes. Alors,
les femmes,
elles doivent être vraiment, c'est une qualité qu'elles doivent posséder, même d'ailleurs les hommes, parce que le problème de leadership dans notre pays se pose également pour les hommes.
C'est un problème sérieux.
C'est un problème sérieux, même pour les hommes.
Oui.
Nous n'avons pas des leaders de qualité dans notre pays, c'est mon point de vue.
Mmh.
C'est mon point de vue. Ils ne sont pas nombreux, même les hommes. Donc, je soutiens, M. Séphorien, que l'éducation, c'est la clé qui va permettre aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité et une éducation de qualité.
Mmh.
Il a posé une deuxième question par rapport au nombre de filles aux examens d'État, je crois que c'est à Kananga.
Oui, à Kananga.
Le nombre est très,
très faible,
faible
en
par
sixième
rapport
année,
aux garçons.
Lors des examens d'État, il n'y a pas eu assez de filles.
Je parlerai ici, j'avais parlé ici pour dire que oui, quand les filles doivent accéder à l'instruction, à l'éducation secondaire, à l'enseignement secondaire et universitaire, plus on monte, surtout dans les provinces, on sent qu'il y a très peu de filles. Parce que dans les provinces, par exemple, les filles se marient très tôt. Donc en fait, on est est encore dans les stéréotypes traditionnels qui renferment en fait les familles, les filles, mais également les hommes, toute la société, peut-être dans ce coin de la République. Mais quand vous allez dans d'autres coins, mais vous allez comprendre que les filles sont également nombreuses par rapport aux garçons à passer les examens d'État. Donc ça dépend des provinces, ça dépend des milieux, des communautés, mais de plus en plus, on voit les filles quand même étudier. C'est pourquoi je persiste que c'est l'éducation d'abord qui
c'est
va libérer
les femmes. C'est un élément important qui va libérer
les femmes.
Mathieu Mwanda nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Mathieu.
Ok, bonjour monsieur le journaliste.
Nous parlons de l'émergence et du leadership féminin. Quelle est votre question?
Voilà, je voulais juste intervenir par rapport à la sujet comment promouvoir les leaderships féminins. Bref, moi j'ai compris que pour arriver à promouvoir les leaderships féminins, la première des choses, il faut commencer par la femme elle-même, la féminité. Et j'ai compris que la femme a certaines faiblesses. Primo, la femme doit ôter les complexes. Donc il faut sensibiliser la femme à ôter les complexes. Parce que la femme, devant un sexe masculin, la femme est toujours complexée. Ça c'est de un. De deux, il faudra que la femme soit autonome au point de vue financier. Nous constatons que la femme peut avoir ses atouts, peut avoir l'argent, mais devant un homme, la femme n'est pas toujours autonome. Qui dit leadership, veut dire la maîtrise, donc avoir une maîtrise, à maîtriser une masse des gens et vaincre cette masse par ses idées. Pour arriver à les faire, il faut ôter les complexes. Voilà, en gros, de manière un peu générale, de cette façon que je voulais intervenir pour arriver à promouvoir ces libertés.
Donc, d'accord.
Il faut toujours commencer par la femme elle-même, la personne elle-même, qu'elle se sente d'abord égale devant tout le monde, devant les hommes, devant les femmes, donc qu'elle se sente à l'aise et égale. Et là, elle sait bien intervenir, elle sait bien garder son leadership. Et ce leadership sera bien promouvoir.
Voilà, nous invitons les femmes également à participer à cette émission parce que jusque-là, il n'y a que des hommes qui appellent pour poser des questions. Chères dames, appelez-nous au 081-890-63-94. Mathieu Elema nous appelle de Kisangani, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Mathieu?
Oui, je n'ai pas tellement une question, mais ce que je voulais dire, il y a une question concernant...
Allez-y rapidement, Mathieu. Allez-y rapidement.
Oui, nous voyons par exemple en milieu universitaire ou dans des écoles, les femmes ont toujours tendance à se sous-estimer. Elles cherchent toujours à être derrière les hommes pour chercher des réussites. Elles préfèrent des corruptions, tout cela. C'est ce qui rend de plus en plus les femmes capables face à leurs compétences dans les milieux professionnels. Mais je ne sais pas si, vis-à-vis de ce problème, quelle proposition, quelle solution l'invité peut nous donner par rapport au problème que j'ai posé.
D'accord. Professeur Baidila.
Merci encore pour Mathieu et Monsieur de Lubumbashi qui ont posé des questions. En fait, pour Monsieur Mathieu, je dirais, je suis totalement d'accord avec lui parce que moi-même, je travaille dans le milieu universitaire et je suis passée par là. Donc, en fait, mais c'est lié en fait à ce que nous avions dit au départ, à une mauvaise éducation d'abord des filles qui en fait qui sont plus éduquées à être femmes, plus au lieu d'être une personne capable de se prendre en charge, capable de changer les choses. Oui. Les filles dans notre pays sont souvent éduqués pour le mariage de demain. Donc, quand on est éduqué pour le mariage, c'est qu'on va être dépendant d'un homme. C'est ça la conception du mariage en Afrique et spécialement en RDC, où les filles attendent d'être épousées pour être prises en charge. Donc, ce sont des questions d'éducation, encore une fois pour moi. Et c'est vrai, à l'université, elles préfèrent des méthodes peu recommandées. Oui, mais quand on préfère des méthodes peu recommandées, c'est qu'on ne va pas aller de l'avant. Parce que c'est difficile pour les filles, en faisant ces choses, de se réaliser comme personne humaine, capable d'apporter des changements dans son milieu, capable de travailler pour son autonomisation. Oui. Donc en fait, encore une fois pour moi, l'éducation, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'église, ces structures dont j'ai parlé, qui reproduisent le statut de la femme, doivent absolument changer. Il faut un autre regard pour les femmes, il faut une reconnaissance pour les femmes en tant que des personnes capables de travailler autant que les hommes, sinon plus que eux. Pour Monsieur de Lubumbashi, les femmes doivent effectivement enlever le complexe. Et encore pour moi, une fois, c'est l'éducation, qui permet d'enlever le complexe auprès des femmes, que ce soit à la maison ou à l'école. dans les églises, cette structure, c'est l'éducation qui permettra à la femme d'être autonome financièrement. Je ne vois pas. Pour moi, l'école, c'est le chemin le plus sûr pour autonomiser les gens. C'est-à-dire, quand les personnes sont très bien éduquées,
oui.
ils auront un travail, ils seront payés, même s'ils ne travaillent pas au niveau des structures étatiques,
oui.
mais ils peuvent eux-mêmes créer un travail qui leur permet d'être autonomes.
Or, dans notre pays, le taux d'analphabétisme est beaucoup
Exactement.
Plus élevé.
Et très élevé parmi les femmes.
Oui.
Donc, il faut permettre aux femmes d'accéder à une instruction, à un enseignement de qualité au niveau secondaire
et
universitaire.
Est-ce que, par exemple, au village, on peut avoir une dame qui n'a pas étudié, mais qui a la capacité de mobiliser
On trouve dans les villages des femmes qui n'ont pas peut-être été à l'école, mais qui ont les qualités de leader
oui.
et qui mobilisent les masses pour le changement dans des communautés villageoises. On voit des femmes qui luttent pour qu'il y ait des puits d'eau potable.
Oui.
On voit des femmes qui luttent pour envoyer les enfants à l'école. On voit des femmes qui luttent pour des routes, des dessertes agricoles.
Mmh.
Donc, en fait, c'est vrai. Nous pouvons, c'est pourquoi j'avais dit, aujourd'hui, on ne peut pas penser au développement sans l'instruction qui est la clé qui ouvre les portes. Donc, en fait, au-delà de ça, il y a des personnes qui sont nées avec des qualités
oui.
de leader.
Jean nous appelle de Matadi, dans la province du Bas-Congo. Jean, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, je voulais juste... avoir des précisions pour se faire identifier à l'émission.
Oui, vous n'avez pas de questions par rapport au thème?
Non, je n'ai pas de questions. Je voulais seulement avoir des précisions pour savoir comment s'identifier à l'émission.
Comment s'identifier, qu'est-ce que cela veut dire?
Comme ça, toujours été, quand vous appelez, je ne comprenais pas. Les gens qui appellent,
d'accord, vous allez, oui, vous allez parler avec le réalisateur tout à l'heure, il vous donnera toutes les précisions par rapport à ça. Nous avons Rodrigue en ligne depuis, il nous appelle, depuis, il est à Kinshasa, bonjour. Rodrigue, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à Radio Capi, bonjour à notre invité.
Nous parlons de la promotion bonjour. Du leadership féminin, quelle est votre question? Quelle est votre question, Rodrigue?
Mon quoi?
Oui, vous appelez pour poser une question ou pas?
J'aimerais vous poser une question.
Allez-y, Rodrigue.
Oui. J'aimerais dire comment reconnaître qu'une femme a un leadership et quels sont les voies et moyens pour qu'elle accède à ceci. Ma ouais. seconde question, quel est le leadership que les femmes cherchent? S'asseoir au bureau ou le champ, ou encore devenir femme de ses soyeurs. Est-ce que ça n'est pas le moyen de changer la team?
D'accord. Professeur Baïdila, la première question, comment reconnaître qu'une femme a les qualités elle peut être un bon leader?
Merci pour cette question, mais quand on doit reconnaître les qualités d'un leader, d'une personne qui peut être leader, je continuerai à parler des hommes ou des femmes parce que le problème demeure pour moi, pour les hommes et pour les femmes. Je citerai d'abord des personnes qui sont bien éduquées, l'instruction, mais aussi ce sont des personnes de combat qui, quand ils ont une vision, un but, ils poursuivent ce but et ils doivent atteindre les résultats, ils doivent arriver. Donc ce sont des personnes qui ont une volonté forgée parce qu'on ne peut pas dire que je vais diriger les autres, je dois l'idée pour un changement et je n'ai pas une volonté parce qu'on rencontre des obstacles.
Oui.
Il faut donc une volonté forgée, un courage pour arriver, mais aussi un esprit serein, la maîtrise des dossiers quand on doit parler par exemple du leadership féminin, politique ou économique, même au niveau des universités. Il faut avoir la maîtrise des dossiers, être en fait minutieux dans le traitement des dossiers. Comment peut-on le faire quand on n'est pas suffisamment éduqué? Mais aussi, ce sont des personnes qui sont très stratégiques. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent comment arriver et quels moyens il faut mettre en place pour arriver. Ils mettent en place le délai par rapport au temps pour arriver et ils savent qui il faut voir pour atteindre tel objectif. Donc, ce sont des personnes qui sont très stratégiques. Elles ont, je parle des personnes, un style propre, original, parce que le leadership, on peut être deux chefs dans deux institutions différentes, mais chacun a son style. Et ce style-là, moi, je pense, c'est ça vraiment le leadership. Ce qui différencie, par exemple, deux personnalités, deux chefs, quel style il faut apporter, l'originalité dans la manière d'approcher les gens, de manière de traiter les dossiers. Mais aussi, ce sont des personnes qui défendent des principes. on tient au principe. Oui. Et ce sont des personnes qui sont capables de sacrifice. Elles ont donc des capacités de communication, oui, d'organisation, de motivation, mais aussi elles doivent être en bonne santé physique et mentale. Mm-hmm. Voilà un peu, en gros, si je dois dire, par rapport
à la qualité. Et les troupes, les gens facilement suivent, sont influencés par
oui,
les leaders.
Oui, on voit, ce sont des qualités qui transparaissent. Oui. On voit que c'est différent. La manière de faire les choses est différente. Et les gens le voient et ils suivent, ils s'alignent, mm-hmm, comme je dis. Par contre, quand on a un chef, par exemple, qui n'est pas leader, on ne s'aligne pas. Mm-hmm. Les gens sont rangés.
Et il semble que les leaders ne sont pas des dictateurs. Ils n'imposent pas
des
choses.
Ils n'imposent pas des choses. Ils comprennent. J'ai parlé des qualités de communication, d'organisation, de motivation.
Oui.
Ils n'imposent pas. Parce qu'ils doivent convaincre des personnes qui convainquent par leur comportement. Ils sont des modèles, en fait.
Vous avez dit au début que le pays souffre aujourd'hui. On n'a pas assez de leaders de qualité aujourd'hui dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Baïdila, surtout dans le milieu des femmes, pour faire changer les choses?
Il faut, en fait, moi je crois, encore une fois, donner une éducation de qualité en termes, par exemple, d'éducation patriotique. Il faut aimer. Quand on aime son pays, c'est comme soi-même. Quand je m'aime, je dois faire du bien pour moi. Même, je ne me blesse pas. C'est aussi des qualités patriotiques que les gens doivent avoir par rapport au pays. Quand on regarde autour de soi, on voit qu'on doit changer des choses, il faut le faire. Il faut donc mettre les gens ensemble pour que le changement puisse arriver. Donc, je parle là d'une éducation patriotique par rapport à notre pays, par exemple. Ce qui nous manque. Vous voyez, quand nous avons des immondices partout à Kinshasa, c'est une question d'amour du pays. Et c'est ça, en fait, le patriotisme. Comment faire? On n'a pas besoin que le président de la République descende jusqu'en bas. Donc, on doit avoir des chefs à tous les niveaux et qui sont des leaders à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement.
Ça commence déjà au niveau du quartier.
Au niveau de la famille, où les gens ont cet amour de faire le bien, de voir les choses marcher. Et ça, c'est peut-être plus facile, mais ça va ressortir, ça va rebondir. Parce que, mais ce sont les communautés qui nous donnent la ville, ce sont les plusieurs villes qui donnent en fait les provinces et le pays. Donc ça commence en bas et c'est très important. Par contre, nous sommes dans un pays où tout le monde veut aller plus loin et le fondement est vide. Donc il faut commencer par là et donc peut-être faire un mouvement de va-et-vient entre le haut et le bas. Mais le bas est très très important. Les communautés locales, c'est très très important. Les gens doivent comprendre qu'il faut travailler les masses. À la base, il faut leur donner une éducation de qualité, une éducation patriotique qui ferait que nous puissions aimer notre pays et identifier des personnes capables de faire changer les choses. Ces personnes-là sont des hommes et des femmes également.
Et vous avez parlé de votre livre, vous avez publié un livre
sur
ça.
J'ai publié un livre au mois de mars. Le titre, c'est « La reproduction du statut de la femme ». J'explique en fait dans ce livre comment une structure comme la famille est capable de reproduire le statut de la femme. Et c'est ce qui en fait fait que même à certains niveaux, les femmes reproduisent ce que nous appelons leur statut de personne secondaire. Et comment il faut changer les choses.
Voilà, donc la femme peut changer les choses dans ces pays.
Absolument,
voilà.
Absolument.
Madame Baïdila Espérance, professeure d'université, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci Jody, c'était un plaisir pour moi que de venir passer cette émission.